Bonjour.
Bonjour à tous. Journée marathon pour l'exécutif qui se prépare à durcir les restrictions sanitaires pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie. Conseil de défense ce matin et demain à l'Elysée. Réunion à Matignon cet après-midi avec les parlementaires, chefs de parti et partenaires sociaux. Plusieurs scénarios sont à l'étude, de l'extension du couvre-feu au reconfinement, précision de Pierre Neveu. Tout est sur la table pour anticiper les effets de la propagation de la deuxième vague jusqu'en prison où le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a fait passer des consignes pour désengorger les établissements en aménageant les petites peines, éclairage d'Anne Fauquemberg. Et puis alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan exhorte à nouveau les citoyens de son pays à boycotter les produits français pour dénoncer les positions d'Emmanuel Macron sur l'islamisme, les Turcs sont partagés sur cet appel. Reportage à Istanbul d'Anne Andlauer. Ce n'est plus qu'une idée. Dans quelques heures, le durcissement des restrictions liées à l'épidémie de Covid sera du concret. Face à la deuxième vague qui touche durement le pays, le président de la République a décidé de réunir deux conseils de défense, l'un ce matin, l'autre demain, avec un mot d'ordre, pas question de perdre de temps, Pierre Neveu.
Depuis la rentrée de septembre, la doctrine de l'exécutif était « il faut vivre avec le virus ». Doctrine qui va évoluer au regard de la progression de l'épidémie et de l'inquiétude des médecins et épidémiologistes. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, expliquait hier encore que la situation était devenue critique. C'est donc une décision lourde de conséquences que va prendre le chef de l'État dans les prochaines heures. Avant d'annoncer de nouvelles restrictions, Emmanuel Macron a décidé de modifier son agenda. Il annule un déplacement au Creusot consacré à la filière nucléaire pour convoquer ce matin à l'Élysée un conseil restreint de défense et de sécurité nationale. Charge au Premier ministre d'expliquer et de convaincre les forces politiques et les partenaires sociaux dans l'après-midi. L'Élysée et Matignon privilégient la concertation avant ce qui semble être un tour de vis supplémentaire. La situation sanitaire impose de nouvelles mesures, extension du couvre-feu, confinement spécifique des personnes les plus fragiles, confinement territorialisé. Toutes ces mesures sont sur la table. Les derniers arbitrages seront rendus a priori demain matin à l'issue d'un nouveau conseil de défense.
Et pour ce qui est des concertations, le Premier ministre Jean Castex recevra à Matignon les chefs de partis politiques dans un premier temps, puis les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, et enfin les partenaires sociaux et les représentants des principales associations d'élus locaux. Pour les élus locaux, justement, comme Christophe Bouillon, président de l'Association des Petites Villes de France, cette réunion est une manière de les associer au processus de décision.
Il peut y avoir des aspects qui n'ont pas été bien anticipés. On l'a vu pendant le confinement. On a vu au moment de la reprise des cours dans les écoles qu'on a pu être entendu, écouté sur un certain nombre d'aspects. Donc ça a plutôt un exercice utile, même si, bien évidemment, on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre, tout ça ait fait l'objet d'arbitrage. Ça, on peut le comprendre, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est le rôle de l'État aussi, hein, dans une crise sanitaire majeure, de prendre des décisions. Après, la question, elle se pose souvent sur des éléments de correction qui peuvent intervenir dans l'application. Voilà, les élus locaux, ils sont pas là pour contester des décisions qui appartiennent, encore une fois, à l'exécutif. Mais en même temps, il y a parfois une utilité de dire à l'exécutif, attention, soit vous êtes allé trop vite, soit ce que vous nous demandez d'appliquer est complètement inapplicable.
Christophe Bouillon au téléphone avec Stéphane Robert. Sur le front de l'épidémie, plus de 2700 malades du Covid sont désormais hospitalisés en réanimation. C'est près de la moitié de la capacité en lit du pays qui est utilisée selon Santé publique France. Il est un endroit où la propagation du Covid est à surveiller en permanence. Ce sont les prisons où les détenus sont bien souvent les uns sur les autres. Le nombre de prisonniers en France a dépassé le seuil des 62 000 ce mois-ci, ce qui correspond à une densité carcérale moyenne de 103%. Il est urgent, aux yeux du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, d'anticiper les effets de la seconde vague. Il a donc écrit au procureur, mais aussi au directeur des services pénitentiaires et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, Anne Fauquemberg.
Parmi ces détenus, près de 120 ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 et 1050 étaient confinés il y a une semaine. Ces chiffres concernent les zones d'alerte maximale où se trouvent actuellement près de 16 500 prisonniers. Dans sa dépêche au parquet, Éric Dupond-Moretti demande de bien appliquer le nouveau droit des peines instauré par la loi du 23 mars 2019 et qui consiste à systématiquement aménager les condamnations de moins d'un an, explique-t-on à la chancellerie. Pour l'Observatoire international des prisons, il faudrait généraliser cette politique à toute la France. François Besse, l'un des responsables de l'OIP.
C'est partout qu'il faut résorber la surpopulation parce que même au moment où on était à 59 000, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près le nombre de places quand on regarde au niveau national, il y avait des grandes disparités selon les prisons. C'est-à-dire, vous aviez des maisons d'arrêt où on était encore à 150%, 120%, etc. de taux de surpopulation. Et il y avait encore des gens qui dormaient sur des matelas par terre. Donc la surpopulation, elle demeure encore dans pas mal de maisons d'arrêt.
Ces jours prochains, alors que le nombre de parloirs diminue dans les zones d'alerte maximale, le ministère de la Justice allouera également 30 euros par mois de crédit de téléphone aux 16 500 détenus concernés. Il s'agit de maintenir le fragile équilibre au sein de ces établissements et d'éviter les mouvements de protestation, comme en mars dernier, au début du confinement.
Et alors que la deuxième vague et un éventuel reconfinement font craindre de lourdes conséquences économiques, l'Assemblée nationale a voté cette nuit en première lecture une partie du budget du plan de relance dédié à faire face à la crise économique causée par la première vague. 22 milliards d'euros de crédits débloqués pour 2021 qui font partie du plan global de 100 milliards prévu par le gouvernement. Le texte fera maintenant l'objet d'un vote solennel le 17 novembre, puis d'un examen au Sénat pour une adoption définitive au plus tard le 18 décembre. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan n'a pas fini de flatter son électorat le plus religieux et conservateur. Le président turc a appelé hier ses concitoyens à boycotter les produits français. Après la dénonciation ce week-end des positions d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'islamisme assortie d'insultes, arrive de sa part désormais la condamnation économique de la France pour le traitement des musulmans supposés que le chef d'État turc juge discriminatoire, mais aussi pour s'opposer à la liberté de caricaturer le prophète de l'islam et la liberté d'expression dans la population turque. L'appel du président Erdogan semble reçu avec plus ou moins d'enthousiasme à Istanbul, à Nandlauer.
Assis au soleil près d'une rue commerçante du centre d'Istanbul, Mustafa, un retraité, soutient son président quand il appelle à boycotter les produits de marque française.
On est obligé de soutenir cet appel. On n'a pas le choix. Tous ceux qui vivent en Turquie doivent le soutenir. C'est une façon de protéger notre religion contre ceux qui l'attaquent. Tous ceux qui vivent dans ce pays doivent la protéger.
Un peu plus loin, Metin, un marchand de fruits et légumes, se dit a priori favorable à l'idée, tout en s'avouant incapable de citer une marque ou un produit français qu'il consomme régulièrement et pourrait donc boycotter. Mais pour lui, c'est une question de principe, une façon d'envoyer un message.
Je vois ça comme une réponse silencieuse et mesurée. Chacun devrait respecter les croyances d'autrui. Aujourd'hui, vous insultez ce que certains considèrent comme sacré. Demain, d'autres vous feront la même chose. Cela n'apporte rien de bon.
Ediz, un barbier, est quant à lui beaucoup plus sceptique quant à l'efficacité des appels au boycott et des discours provocateurs du chef de l'État turc.
J'ai reçu sur WhatsApp des messages d'amis disant de ne pas acheter tel produit ou tel autre. Mais à quoi ça va servir concrètement d'acheter tel produit étranger et pas tel autre? Moi, je préférerais qu'on essaie d'apaiser les tensions.
Ces appels au boycott, largement relayés sur les réseaux sociaux, ne semblent toutefois pour l'instant pas encore suivis d'effet dans les rayons des magasins turcs.
Aux États-Unis, une victoire de Donald Trump à une semaine de l'élection présidentielle. Le Sénat confirme cette nuit la nomination d'Amy Coney Barrett. La juge conservatrice sera bien la nouvelle membre de la Cour suprême pour le plus grand plaisir de Donald Trump, qui est à l'origine de cette nomination. La plus haute juridiction du pays a désormais 6 juges conservateurs sur 9 chargés d'arbitrer les débats sur les grands sujets de société. Les élections américaines sont scrutées partout dans le monde, y compris en Chine, où le parti communiste chinois est réuni depuis hier pour 4 jours en vue de l'établissement du plan quinquennal, la feuille de route économique et sociale de la deuxième puissance économique du monde, une puissance qui est en guerre commerciale avec Washington. Alors l'élection américaine de mardi prochain peut-elle changer les rapports entre Pékin et la Maison-Blanche si Joe Biden est élu? Oui, estime François Gaudement, sinologue pour l'Institut Montaigne.
C'est la première fois à une élection présidentielle américaine que la Chine marque une préférence qui n'est pas pour le détenteur du titre, mais pour son challenger, c'est-à-dire pour Joe Biden. Et elle commence même à faire des déclarations. Il y a eu la déclaration sur le climat, la neutralité carbone en 2060, même si c'est très loin, une déclaration du président de la Banque centrale chinoise en faveur de l'internationalisation et de la libéralisation du yuan, de la monnaie chinoise. Il y a des ouvertures à des entreprises étrangères. La tentative d'accrocher une nouvelle administration démocrate pour revenir en arrière sur les mesures qu'a prises l'administration Trump. Je crois que c'est effectivement quelque chose qui est important. D'un autre côté, on voit aussi que Xi Jinping est un amateur de rapports de force. Et tant que le successeur de Donald Trump, si c'est Joe Biden, n'aura pas démontré non seulement une force vis-à-vis de la Chine, mais aussi une force sur le plan intérieur, la Chine continuera à tester l'administration américaine.
François Gaudemont, invité hier soir du journal de 22h de France Culture. Les prévisions de Météo France nous annoncent un temps maussade aujourd'hui. Ciel couvert et pluie sur une bonne moitié ouest du pays. Ailleurs, le ciel sera nuageux. Seul le littoral méditerranéen sera baigné de soleil. Les températures minimales vont varier entre 5 et 11 degrés. Les maximales entre 10 et 19 degrés.